Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Je m'appelle Justine, je suis étudiante en histoire et je suis ici ce soir pour vous parler du festival Trouble ton genre. Depuis 2019, ce festival s'intéresse aux questions de genre et de féminisme, déconstruit les stéréotypes et stimule les débats à travers des conférences et des ateliers. Il a traditionnellement lieu la première semaine de mars et prend place sur le campus universitaire, s'adressant à la fois aux enseignants, enseignantes, au personnel administratif ainsi qu'aux étudiants et étudiantes et au public extérieur. Le festival en est aujourd'hui à sa troisième édition, qui se déroulera en distanciel cette année avec des conférences qui auront lieu tous les soirs du 8 au 12 mars, de 18 à 21h. Pour parler de ce festival, j'ai ce soir avec moi Irène Favier, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes et en charge cette année de coordonner l'organisation du festival. Alice Bonardi-Higou, étudiante en troisième année de licence CHA, sciences humaines appliquées, aussi trésorière du bureau des étudiants de l'Arche et gérante du site internet du festival cette année. Et Gaëlle Partouche, créatrice de la librairie indépendante Les Modernes, située au 6 rue Lacanale à Grenoble, qui est en partenariat avec le festival depuis la première année. Ce festival a été créé il y a 3 ans, après que des enseignantes et des étudiantes aient fait le constat d'une méconnaissance des problématiques actuelles du féminisme, des difficultés rencontrées par les femmes et les minorités de genre, mais aussi de la persistance des stéréotypes de genre et des effets de domination au sein du monde académique et social. Le festival en est aujourd'hui à sa 3e édition. Madame Favier, les motivations qui animaient la création du festival sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui ?
Bonjour, oui, je crois que ces motivations premières animent toujours cette 3e édition. L'actualité elle-même invite à une réflexion sur la place des questions de genre dans nos sociétés, dont en tant que praticienne et praticien des sciences sociales, nous tentons d'analyser les ressorts. Mais nous rencontrons aussi dans notre vie professionnelle ou étudiante, pas tous les jours certes, mais régulièrement, des situations qui nous interrogent et qui nous poussent à nous réunir pour réfléchir ensemble à ce que la fabrique du genre fait à nos quotidiens.
Et comment a évolué le festival du coup sur ces 3 années? Quelles problématiques a-t-il pu aborder jusqu'ici?
Le festival se propose d'envisager les féminismes dans leur pluralité, d'où le pluriel du sous-titre du festival, et dans leur polyphonie. C'est ce qui justifie à notre sens la tenue de ce festival dans un cadre universitaire, cadre que nous concevons comme un espace de dialogue ouvert à l'expression des points de vue les plus divers, tant qu'ils respectent les règles qui sont au fondement d'une administration rigoureuse de la preuve et qui sont par ailleurs, à notre sens aussi, au fondement de notre démocratie. Les précédentes éditions ont abordé des thèmes variés, tels que l'espace public, son rapport au genre, la contraception, la prostitution. Elles ont aussi tenté d'apporter des éléments de définition à ces mots qu'on emploie un petit peu sans forcément toujours bien les connaître. Et ce festival s'ancre dans des pratiques et dans des travaux qui sont réalisés en géographie, en philosophie, en histoire, des disciplines qu'on pratique au quotidien à l'Arche, donc l'UFR qui accueille ce festival.
Cette année, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les grandes thématiques qui vont être abordées et sur la programmation ?
Oui, alors cette année on traitera des féminicides, cette question juridique et judiciaire un peu nouvelle qui nous vient d'Amérique latine et puis qui a quand même traversé pas mal d'espace, du féminisme néolibéral avec l'intervention d'une philosophe qui viendra présenter son travail là-dessus, de gynécologie aussi et des débats soulevés par la question dite intersectionnelle. Et comme on voit, on a tenté de traiter de questions très diverses, plus ou moins situées sur le devant de la scène médiatique. Certaines sont hyper médiatisées, d'autres ne le sont pas du tout. Et c'est cette diversité-là aussi qui nous tient à cœur.
Oui, il y a moins des thématiques comme les années précédentes pour le festival de cette année, du coup.
Oui, on a choisi on s'est posé la question d'une thématique et puis finalement, on est resté dans quelque chose d'assez finalement... très très divers quoi. Voilà. L'idée c'était d'aller glaner un peu ce que les féminismes, le genre posent comme question à la société plutôt que de prendre une focale particulière, ce qui arrivera peut-être dans les années prochaines.
Et cette année, comme on le sait, on a été marqué par une situation sanitaire un peu particulière. Comment le festival, du coup, s'est adapté à cette situation ? D'habitude, il y a des ateliers, du coup, comment vous avez réussi à gérer tout ça ?
Ouais, ben, on a géré sans gérer. Le festival a connu, du coup, forcément des changements. À côté donc, de ces conférences et de ces soirées, débats ou projections, on avait prévu donc, quelques ateliers à midi. Par exemple, la librairie Les Modernes, Gaëlle ici présente, avait proposé un atelier qui s'annonçait passionnant autour de l'association Grandir Ego. C'était Noémie Hott qui devait intervenir et faire travailler le public autour de la littérature jeunesse et de ses clichés qu'on rencontre tous, hein, au ça et là, au gré de nos lectures et dans nos souvenirs d'enfance. Donc ça, à contre-cœur, on a décidé en fait de reporter en fait ces ateliers à une édition ultérieure. Mais on pense que ça n'est que partie remise.
Oui. Le festival aura donc lieu en Zoom par des conférences visio. Et le lien sera diffusé un peu en amont du festival, seulement quelques heures avant sur le site internet du festival. C'est bien ça, Alice ?
Oui, c'est exactement ça.
Super, merci. Madame Favier, vous êtes aussi en charge de la soirée du mercredi qui aura pour thématique la gynécologie et les problèmes actuels rencontrés dans ce milieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, volontiers. Cette soirée-là, elle aura lieu le mercredi soir. C'est alors pas tellement une conférence, mais plutôt une table ronde, là aussi avec plusieurs voix, qui tente d'aborder la gynécologie et les questions et les remises en question dont elle fait actuellement l'objet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public. Et on a tenté d'accueillir des points de vue très divers sur cette question, afin là aussi de mettre les choses un peu en débat. Et il nous semble que cette question, en tout cas moi c'est un point qui me tient à cœur, elle intéresse les femmes, mais elle intéresse aussi les minorités de genre, mais elle intéresse aussi les hommes, parce que le corps, dans sa dimension reproductive ou sexuelle, pose des questions d'ensemble à nos sociétés. Enfin, c'est interrogé, disons, par un petit coin, un phénomène qui en réalité, un phénomène social qui en fait a beaucoup d'ampleur. Donc on accueillera deux gynécologues, toutes deux soit en train de créer, soit ayant déjà créé des maisons des femmes. Donc c'est le cas de Gada Hatem à Saint-Denis ou de Camille Véran au GHM à Grenoble. On accueillera aussi une étudiante en médecine et une sage-femme, membre d'une association de soignants qui se veut donc féministe, donc Myriam Dergam et Caroline Reinisch. Et on accueillera aussi Dorothée Rameau, qui est membre du collectif interassociatif autour de la naissance. Et ce qu'on espère de ces points de vue, qui sont parfois contradictoires, en tout cas très divers et toujours très respectueux, c'est des discussions un peu variées autour de ce qui pourrait ressembler à une mise en dialogue apaisée de la parole soignante et de la parole patiente. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. On va tout de suite faire une petite pause musicale et on se retrouve après. Cause it's sommes toujours sur Radio Campus 90.8 dans l'apérophonie qui parle ce soir du festival Trouble ton genre. Nous venons d'écouter le titre Atomic Bongos de Lydia Lunch, une figure féministe et engagée, égérie de la No Wave New Yorkaise des années 70. Madame Partout, je m'adresse maintenant à vous. Vous êtes, je rappelle, la créatrice de la librairie Les Modernes, qui est située rue Lacanale à Grenoble. J'ai évoqué la librairie en début d'émission. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le concept de cette librairie ?
Oui, alors c'est une librairie que j'ai créée en 2007, librairie indépendante, c'est-à-dire que voilà, elle est unique, elle ne dépend pas de groupes ou d'associations ou de groupes financiers ou de groupes de libraires. Elle est indépendante aussi par son fonctionnement, parce que il n'y a pas de lien avec des subventions ou des tutelles ou des choses comme ça. C'est un lieu complètement privé, mais autonome. Enfin, et autonome, mais surtout qui est un point de rencontre. Alors, je note ça parce que c'est très indépendant aussi dans mes choix et je n'ai de compte à rendre à personne, ce qui fait que je vais où j'ai envie d'aller et que ça évolue beaucoup. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est-à-dire que ça a évolué énormément en 13 ans. Donc, c'était une librairie qui était plutôt identifiée jeunesse, avec une grosse part d'illustration, mais toujours une part illustration adulte aussi, avec la BD indépendante, qui est déjà un secteur de l'illustration assez engagé. Et puis après, comme justement je fais un peu selon mes envies et mes rencontres, eh ben, je suis allée, j'ai laissé la partie jeunesse à l'entrée, mais j'ai aussi beaucoup étoffé tout ce qui était mes centres d'intérêt, comme le féminisme. Donc avec beaucoup d'ouvrages autour de ces thèmes-là, et ça aborde vraiment beaucoup de choses différentes, le rayon est assez fourni, et puis aussi la musique. Toujours la bande dessinée indépendante, et puis de plus en plus des essais sur ce qui se passe actuellement à des niveaux, on va dire, société ou politique.
Merci. Vous parliez justement de votre intérêt pour le féminisme. La librairie est présente depuis les débuts du festival sur le festival. Pourquoi avoir voulu s'associer avec le festival Trouble ton genre ?
Alors, j'ai été... en fait, je crois que j'ai reçu la visite de Naïma Germani dans la librairie, qui a découvert le rayon féministe et qui m'a informée du festival. Enfin, du premier d'ailleurs, de la création du premier. Et donc, elle est maîtresse de conférences en histoire. Oui. Et donc, ça m'a tout de suite intéressée de pouvoir développer. Enfin, ce qui m'intéresse aussi, de travailler avec des festivals ou des colloques ou des choses comme ça, c'est de travailler des bibliographies en fonction des événements et des invités et de creuser. Parce que moi, ça nourrit énormément mes recherches, en fait. Donc, ça apporte quelque chose aux partenaires avec qui je travaille comme un festival. Puisque après je viens sur place, bon pas cette année, hein, mais avec les bouquins qui sont en lien avec les ateliers et les conférences. Mais aussi, moi, ça nourrit énormément le fond de la librairie. C'est vraiment un partenariat, enfin c'est dans les deux sens, quoi. Donc voilà, j'avais fait la proposition tout de suite que si elle était intéressée, en tout cas moi, je pouvais faire des recherches bibliographiques et être présente sur le festival avec des librairies éphémères, comme je fais dans plein d'endroits. Enfin, plus actuellement, mais normalement. Et là, les bibliographies et les recherches liées à ce festival sont en ligne déjà sur le site des Modernes.
D'accord, très bien, merci. Vous avez, malgré aussi, il y a une programmation cette année qui est centrée sur des conférences en visio, oui. Mais il y a quand même un événement hors les murs qui aura lieu à la librairie. Du coup, il s'agit d'une écoute collective de Virginie, Virginia, Simone et moi, un documentaire sonore en deux parties de Isa Stragliati. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette soirée ?
Oui, alors je tenais à un événement en vrai, on va dire, parce que bon, bah, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt pour moi de la librairie, mais tout en respectant, il fallait que je trouve quelque chose qui soit en respect total avec les règles sanitaires et les possibilités d'accueil de la librairie. Donc j'avais déjà fait une écoute de documentaire sonore il y a quelques mois, et autour de Vincennes des Prés avec Jérémy Damian, et là je me suis dit que c'était vraiment, c'est un endroit, on peut être posté à plein d'endroits différents dans la librairie, assez espacé, on peut se déplacer ou se poser, et on n'a pas de contact les uns avec les autres, mais on est ensemble pour écouter, Donc ça me semble, enfin en tout cas c'est tout à fait possible dans la jauge qu'on va respecter, donc c'est pour ça que c'est sur inscription. Et c'est tout à fait possible puisque nous on accueille du public tous les jours en fait. Il y a des va-et-vient de personnes avec une jauge limitée dans les librairies, mais voilà, c'est ouvert, il y a du monde. Donc là c'est exactement la même chose sauf qu'on sera un peu posé pour écouter.
Merci. Et de quoi traite ce documentaire ?
Alors, c'est un documentaire que j'avais... Je connais le travail d'Isabelle Stragliati pour ses créations sonores. Et puis aussi, elle est DJ et elle fait beaucoup de choses autour du son. Elle est sound designer, on va dire. Enfin, designer, sound artiste, je préfère. Voilà, plutôt ça. Et son travail, je l'avais découvert à plein d'occasions différentes. Et un jour, voilà, elle m'a parlé de son documentaire autour de son rapport au féminisme. Et le point de départ, c'est il y a eu l'anniversaire du planning familial au niveau national, mais surtout à Grenoble, puisque le premier centre du planning a été ouvert à Grenoble. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais en tout cas, voilà, c'est parti de là. Et à partir de là, elle a mené des entretiens, et elle mêle dans son documentaire des entretiens. Excuse-moi, je reprends mon souffle. Et aussi des extraits sonores d'archives. Des textes lus aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a le rapport aux textes et notamment à Virginia Woolf, au manifeste de Simone Veil. Enfin, y a plein de textes qui sont lus aussi. Il y a des extraits de plein de choses et c'est quelque chose de très vivant, de passionnant. Voilà.
Ça donne envie. La soirée, du coup, aura lieu le 12 mars à 16h45, je rappelle. Ouais. Il faudra s'inscrire et l'événement est gratuit. Vous avez parlé de vos librairies éphémères que vous mettez en place, notamment vous en avez mis les précédentes années sur le festival. Cette année, malheureusement, ce n'est pas possible. On peut trouver une sélection, une bibliographie sur le site de la librairie. Mais est-ce que vous auriez quelques recommandations et quelques titres à nous proposer et...
Ah oui, 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 bien sûr. Il faut plutôt que je me limite quand on me pose cette question, parce que sinon j'amène la librairie. Oui, alors cette année, il y a eu énormément de parutions autour du féminisme. Pour moi, c'est très, très positif pour ce qu'on peut proposer en librairie. Il y a des choses très diverses qui s'adressent à différents publics. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi mélanger des choses assez pointues avec des choses très grand public, parce que ça peut concerner tout le monde. Là, j'ai fait vraiment mes coups de cœur de cette année, notamment La Révolution féministe d'Aurore Cochelin. Je sais qu'elle est invitée en réunion donc pour une des soirées, je ne sais plus laquelle.
Jeudi soir.
Jeudi soir. Donc, vous pourrez l'écouter. Donc La Révolution féministe d'Aurore Cochelin qui est parue aux éditions Amsterdam. Ce qui est passionnant avec ce titre, c'est que c'est surtout d'abord un panorama de 40 années de lutte féministe et donc une histoire du féminisme. Et je ne dirais pas que c'est abrégé, c'est vraiment condensé au plus près de ce qui s'est passé. Donc il y a énormément de sources. Et en même temps, c'est très agréable à lire. Il y a pas de voilà. C'est pour moi, c'est pas un travail trop ardu. Et elle revient sur ces 40 années pour déboucher sur les luttes nouvelles et cette quatrième vague du féminisme qu'on est en train de vivre. Donc c'est passionnant. Et pour elle, c'est le féminisme sera révolutionnaire ou ne sera pas. C'est très très intéressant. J'ai choisi aussi alors un essai qui à première vue, le titre ne m'avait pas percuté, mais en fait, j'ai commencé à lire et c'est passionnant et surtout très, très intelligent. Ça s'appelle « Avec, sans ou contre, critique queer et féministe de l'État ». Enfin, critique queer / féministe de l'État. C'est donc Cornelia Moser et Marion Tillius aux éditions IXE. C'est un essai qui... Alors, un essai qui se lit comme un texte, c'est tellement bien écrit, je trouve, donc, et pour certains textes traduits, qui se lit comme un roman, mais qui se lit très bien dans le sens où ça aborde différentes postures que peuvent avoir les mouvements féministes et ou queer avec l'État, c'est-à-dire en étant institutionnalisé ou pas, en étant contre, en étant... en partie financée ou pas par l'État. Enfin, ça aborde plein de choses. Au début, je pensais que ça allait être trop universitaire, mais alors, on dépasse le côté didactique. C'est passionnant à lire. C'est très, très fourni en sources et en bibliographie. Et c'est très fin dans l'analyse. Là, on aborde tellement de choses qu'il est très, très complet. Voilà. Ensuite, un petit essai qui s'appelle « La terreur féministe », un petit éloge du féminisme extrémiste de Irène, enfin on dit Irénée, parce qu'elle est c'est à l'espagnol, et c'est aux éditions Divergence. Alors là, c'est un peu dans la droite lignée de « Se défendre » d'Elsa Dorlin. C'est très vivifiant, c'est déculpabilisant, et c'est encore une autre approche. C'est quand même remettre le féminisme radical, pas à sa place justement, mais à une grande place, sachant que c'est toujours aussi, elle nous donne les clés pour comprendre les réactions face au féminisme radical et pouvoir en fait comprendre pourquoi tout ce qui concerne par exemple les féminazis ou des choses comme ça, d'où ça vient, pourquoi dès qu'il y a une voix ou un excès ou quoi, on est taxé d'hystérique ou de violente. Et en fait, c'est comment tout est décrédibilisé par les opposants au féminisme. C'est très intéressant. Voilà, ça c'est juste pour se faire plaisir. C'est le Scoop Manifesto de Valérie Solanas qui est réédité. Donc c'était un texte emblématique, hein. De Valérie Solanas, voilà, je vais vous lire très rapidement la phrase qui est sur la couverture. Les femmes, qu'elles le veuillent ou non, prendront bientôt le monde en main. Alors, elle va même plus loin que ça, hein, puisque Scoop Manifesto, ça a toujours été dit comme étant le livre qui veut supprimer les hommes. C'est la même traduction que la première édition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus la postface de Michel Houellebecq, qui était quand même très problématique, et on a la postface de Lorraine Bastide, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est à lire. Voilà. Ouais, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Et pour finir, si j'ai encore le temps...
Oui. Ouais.
un ouvrage qui dépasse... alors, je dirais qui... Et en amont ou en aval de la question féministe, mais c'est un essai qui, pareil, hein, est de l'ordre presque du roman, qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman, une américaine, aux éditions B42. Donc là, j'ai pris quelques notes, mais très rapides. C'est justement, on en revient à tout ce qui est conflit, agression et critique de la violence. Sarah Schulman, donc c'est une activiste américaine, activiste lesbienne aussi, romancière. Donc, dans cet essai, elle explique comment les individus comme les États font souvent basculer les situations conflictuelles dans le registre de l'agression, ce qui permet, donc, pour ceux qui s'en servent, de criminaliser les opposants pour couper court à la contradiction et échapper à leur propre responsabilité. Donc, moi, je trouve que c'est assez... vivifiant aussi pour le féminisme, cet essai.
Merci beaucoup pour tous ces conseils et lectures. J'imagine qu'on peut tous les retrouver à la librairie Moderne.
Oui.
Et sur le site pour des références dans la bibliographie.
Oui, tout à fait. Dans les liens qui sont sur le site, on les retrouve.
Super, merci. On va se laisser avec une petite pause musicale et on reprend juste après.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta mouille à l'un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points.
La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poignes possessives. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. Quoi, n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi, n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi, comment vas-tu faire sans écorce? Quoi, n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi, n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil.
Nous sommes sur Radio Campus 90.8 dans une apérophonie spéciale pour parler du festival Trouble ton genre. Nous venons d'écouter Quartier des Lunes de Eddy de Préto et je remercie Joanne de m'avoir conseillé un titre d'Eddy de Préto. La particularité du festival Trouble ton genre est qu'il a été élaboré en collaboration avec des étudiantes et des enseignantes qui ont créé ensemble le festival, qui l'ont organisé et qui chaque année travaillent en collaboration pour le mettre en place. Alice, de ton côté, tu fais partie des étudiantes qui participent à l'organisation du festival. Depuis quand es-tu engagée dans le festival et pourquoi as-tu souhaité y participer ?
Oui, bonjour. Je suis du coup en troisième année de licence cette année. Je suis engagée depuis ma première année, ma L1, qui était aussi la première édition du festival. J'ai commencé à participer grâce donc, au bureau des étudiants, où je suis trésorière cette année. Et donc la première année, j'avais aidé à la mise en place d'une collecte de protection hygiénique pour lutter contre la précarité menstruelle. On avait fait aussi toute une communication autour donc des problèmes de santé qui peuvent être liés aux règles, comme l'aménorrhée, par exemple.
Et tu es aussi, du coup, trésorière, comme tu l'as dit, du Bureau des étudiants de l'Arche, qui est un partenaire depuis la première année. Comment le BDE s'engage tous les ans auprès du festival ?
Comme je l'ai dit, donc, la première année, on avait mis en place une collecte donc, de protection hygiénique. L'année dernière, il y avait une exposition qui s'appelait 3 millions d'harcelés, je crois, qui mettait en lien des témoignages donc, de personnes qui ont subi du harcèlement sexuel dans la rue morale. Donc il y avait une reproduction des habits, donc c'était pas forcément du coup les habits qu'elle portait à ce moment-là, mais il y avait un lien du coup entre les témoignages et les habits de ces moments, pour bien sûr montrer que la tenue ne justifie absolument pas les agressions.
Super, merci.
Et pour cette année du coup, on a mis en place, chaque année donc le BDE met en place une vente de suites à l'effigie donc, de notre bâtiment L'Arche. Et cette année, donc, tous les bénéfices seront reversés au planning familial de l'Isère. Et le BDE fera également un don au planning. Voilà.
Super. Tu es aussi en charge de la soirée d'ouverture du festival « Comment enquêter sur les féminicides ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette soirée ?
Oui, bien sûr. Donc, ça sera une masterclass présentée par Richard Schli, qui est journaliste judiciaire donc, au Monde. Il a été dans le groupe d'enquête qui s'est formé au Monde autour de la question des féminicides. Donc, l'enquête a été publiée en 2020, vers l'été, je crois. Et donc il va venir donc, nous parler et présenter toute la démarche qui a été mise en place donc, déjà par Le Monde pour cette enquête et tout aussi le débat ensuite national que cela a apporté de parler ainsi des féminicides.
Très bien. Cette soirée aura lieu, donc, je rappelle, lundi de 18 à 21h. J'ai évoqué le fait que le festival soit élaboré par des étudiantes et des enseignantes. Madame Favier, il y a peu de projets de ce genre à l'université. Vous êtes professeure, mais aussi en charge de l'organisation du festival cette année. Que vous apporte ce genre de projet et pourquoi pensez-vous que finalement ces événements sont importants au sein de l'université ?
Je pense en effet que ce n'est pas tous les jours en fait, qu'étudiantes, enfin je dis étudiantes parce qu'il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait aussi des étudiants et que les enseignants et enseignantes peuvent travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs une initiative qu'encourage activement la vice-présidence culture et culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes, puisque dans ses appels à projets, elle demande de justifier des partenariats, enfin ce type d'équipe. Moi, je m'en réjouis beaucoup parce que ça nous permet un peu de faire des pas de côté, je trouve. Nous concevons ensemble le programme. Nous organisons de façon mixte chaque rendez-vous du festival. Donc Alice est associée à une autre collègue, Amélie Nuc, dans la conception de la soirée sur les féminicides. C'est également le cas pour la soirée gynécologie, que j'organise en votre compagnie.
Oui.
Et on a également recruté, dans le cadre de ce festival, deux stagiaires autour de la conception du site et puis pour la communication du festival. Donc il y a quelque chose qui relève un peu d'une équipe. Ça ne gomme pas forcément toujours, et je ne suis pas sûre que c'est forcément intérêt à le faire, la distinction entre chacun de nos fonctions, quoi. D'un côté enseignement, de l'autre poursuite d'études. Mais sans parler au nom de toute l'équipe, moi je suis juste en charge de coordonner cette équipe. On n'a pas forcément toutes les mêmes vues, mais là-dessus je pense quand même que on s'accorde pour dire que c'est une occasion très riche d'échanger, de se parler, de sortir un peu d'un cadre pédagogique classique et de venir enrichir aussi l'expérience humaine et intellectuelle qu'est l'université. On est toutes très attachées, enfin, on est plusieurs à avoir repris les cours en présence. Ça reste vraiment, pour parler comme on l'entend aujourd'hui, le cœur vraiment de notre métier que d'être en classe et de faire cours. Mais de temps en temps, en fait, ces pas de côté-là, ils viennent questionner... se frotter un peu quoi, à l'expérience pédagogique classique. Et même si ce n'est pas toujours facile, parce que ça oblige aussi à des remises en question ponctuelles, je crois que dans l'ensemble, c'est assez riche parce que ça permet de nouer d'autres rapports avec les enseignants. Et je pense que ça s'inscrit aussi dans une histoire assez longue de l'université en France que je pense qu'il faut savoir nourrir. Quoi.
Oui. Pour parler, je suis aussi du coup étudiante et en charge de la co-organisation de ce festival puisque je co-organise l'atelier du mercredi. Et je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Alice, mais c'était d'autant plus important cette année de participer à ce festival et d'avoir un contact aussi, de garder un contact avec l'université. Et j'ai aussi trouvé que c'est très formateur d'aider à organiser au final ces ateliers, ces conférences et que... De même, l'action du BDE était très intéressante. On s'est tous investis pour organiser les expositions, la collecte. Et c'était vraiment, je pense que ça a vraiment fait quelque chose aussi au sein des étudiants et du BDE pour amener un peu le féminisme dans le BDE et au sein de la fac.
Totalement, je suis totalement d'accord. Et puis, quand on peut du coup participer en présentiel les deux dernières années, on voit du coup l'organisation du BDE et ça se voit dans le hall de l'Arche. Enfin, même sans participer en fait aux conférences, on voit qu'il y a cette présence et ce festival dans l'Arche avec des expositions, avec donc une collecte. Et ça parle aussi peut-être plus aux étudiants de voir que s'il n'y a pas que des professeurs qui organisent et qu'il y a aussi des étudiants et étudiantes. Et je pense effectivement que c'est vraiment un bon lien très formateur déjà pour ceux qui organisent. Et même ensuite, ça donne aussi envie de plus en plus à des étudiants de participer. Enfin, la première année, je me souviens, on était assez peu quand même d'étudiants et étudiantes. Mm. Et de plus en plus, il y a des personnes qui sont intéressées et qui viennent aussi dans l'organisation.
Ouais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on n'était que des étudiantes au début et qu'on a été rejoints finalement par des étudiants. Et ça aussi, c'était assez intéressant. Ouais.
Ouais, puis c'est un enjeu pédagogique très fort aussi de maintenir les gens en première année. Je pense par exemple, il y a des taux de décrochage qui peuvent être importants. Là, on va être confronté probablement à quelques enjeux aussi, à quelques défis. Enfin, on n'a pas du tout les chiffres, mais voilà, on peut imaginer que cette année ayant été très difficile pour une partie des étudiants, il faille s'interroger aussi sur le type de démarche à mettre en œuvre. Et ce type de petits projets collectifs, je pense qu'il est de nature aussi à resserrer des liens, quoi.
C'est vrai. Mais le festival cette année aura lieu en distanciel, mais l'année prochaine, j'espère qu'on pourra le faire en présentiel et renouer un peu ces liens en présentiel et ces animations dans l'Arche. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, on a encore une belle programmation qui s'annonce. Alice, tu es en charge du site. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du site et un peu les différentes pages de réseaux sociaux sur lesquelles on peut trouver des informations?
Oui, bien sûr. Donc, le site, c'est trouble-ton-genre.fr. Donc, c'est le tiré du 6. Donc, il y a du coup les archives des années précédentes pour voir du coup les soirées qui avaient été organisées, ateliers. Et donc, vu que j'en suis en charge cette année, je mettrai prochainement tout le programme de cette année et ensuite les archives donc, des soirées organisées. Pour les réseaux sociaux, donc on a une page Instagram qui est trouble-ton-genre. Et ensuite, il y a également un contact mail pour parler. et si vous voulez nous contacter, qui est troubletongenre@gmail.com.
Super, merci. Vous y trouverez donc toutes les informations et aussi le programme détaillé de toutes les soirées qui vont être organisées cette année. N'oubliez donc pas de noter dans vos agendas, le festival aura lieu du 8 au 12 mars, avec des conférences de 18 à 21h, sauf le vendredi avec l'écoute qui commencera à partir de 16h45. Il y aura aussi le vendredi une diffusion d'un documentaire « Je n'ai plus peur de la nuit » de Leïla Porchet et Sarah Guillemet entre midi et 14h. C'était donc l'apérophonie, spécial Troupe Ton Genre sur Radio Campus. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci. Merci à toi.
Merci.
Je vous laisse avec un dernier titre, Just a Girl. On est en 1995, Gwen Stefani chante sa rage d'être une fille dans, je cite, ce monde qui l'oblige à tenir les hommes par la main. Ce tube, aux paroles résolument féministes, a propulsé le groupe No Doubt sur le devant de la scène.